BFM Business présente...
Tous les jours, j'entends quoi ? De nouvelles solutions, de nouvelles entreprises, de nouvelles levées de fonds. Mais c'est extraordinaire. Mais
vous j'ai dit qu'il y a un vrai souci, il faut créer de l'emploi.
Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit.
Il suffit d'écouter BFM Business.
Voilà, magnifique.
Audrey Tcherkov, Thomas Asportas, Good Evening Business.
19h sur BFM Business, bonsoir, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans la deuxième heure, la deuxième partie de Good Evening Business avec bien sûr à mes côtés Audrey Tcherkov. Rebonsoir Audrey.
Rebonsoir Thomas et rebonsoir à tous.
Alors dans l'actualité ce soir, on a les marchés au plus haut. Le CAC aujourd'hui a passé la barre des 8100 points. On a le Bitcoin qui est au plus haut, on a les dividendes qui sont au plus haut. Jusqu'où tout cela va-t-il nous mener ?
C'est la question.
Est-ce qu'il y a une nouvelle bulle sur la planète finance ? On débat évidemment de ça Audrey avec nos experts à partir de 19h.
Et pas que, puisqu'on va aussi parler de ce coup de tonnerre aux États-Unis. La Chambre des représentants vient de voter, tenez-vous bien, l'interdiction de TikTok sur le territoire américain. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? On en parle tout de suite. Et puis, on va aussi parler d'intelligence artificielle ce soir avec ce rapport qui nous dit que la France, pour rester dans la course, devrait investir 15 milliards d'euros par an. Oui, c'est beaucoup. Alors, où trouver l'argent ? Eh bien, pareil. On en parle dans un instant avec un casting
avec,
de choc.
Oui, effectivement. Franck Dedieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Marc Toiti, économiste, président du cabinet ACDFI. Et Jean-Baptiste Djebari, ancien ministre, entrepreneur et investisseur.
Un débat animé, somme toute.
Ouais, on va pas s'ennuyer.
À tout de suite.
Good Evening Business, le journal.
Et on commence donc, évidemment, avec ce coup de tonnerre aux États-Unis où la Chambre des représentants vient de voter, c'était il y a quelques heures, l'interdiction du réseau social TikTok, sauf si TikTok coupe complètement les ponts avec la Chine. Sur place pour BFM Business, aux États-Unis, Washington, en l'occurrence Antoine Hollard.
Oui, le texte a été adopté à une très large majorité à la Chambre des représentants. Républicains et démocrates ont voté ensemble. Alors ce projet de loi donne un peu moins de 6 mois à TikTok pour couper les ponts avec la Chine et sa maison mère, ByteDance, faute de quoi l'application sera interdite aux États-Unis. Les élus américains accusent le réseau social d'espionner les utilisateurs. TikTok capte énormément de données et ces informations pourraient être transmises à Pékin, ce qui pose selon eux un problème de sécurité nationale. Alors attention, le texte n'est pas encore une loi, il doit d'abord passer par le Sénat et là, pour le coup, ça pourrait coincer. Certains élus démocrates notamment sont réticents. C'est vrai qu'à quelques mois de l'élection présidentielle, il y a aussi un énorme enjeu politique. TikTok, c'est 170 millions d'utilisateurs aux États-Unis, application très populaire chez les jeunes et c'est justement pour aller chercher les voix des jeunes que Joe Biden a récemment ouvert un compte TikTok. Le président américain dit néanmoins qu'il soutient le texte, mais on sent bien que la Maison-Blanche est embarrassé, surtout que Trump de son côté se dit opposé à l'interdiction alors qu'il avait lui-même essayé de bannir le réseau social chinois lorsqu'il était président.
Antoine Hollard à Washington pour BFM Business et on continue d'en parler évidemment toute la soirée sur BFM Business dans Good Evening et à partir de 20h dans Tech & Co. 19h03, retour en France, on parle maintenant d'Alstom où ça bouge visiblement du côté du top management de l'entreprise. Bonsoir Mathieu Pechberti. Mathieu, le futur président du conseil Philippe Petit-Collin vient d'être coopté comme administrateur du groupe. Et d'après vos informations, Mathieu, eh bien l'ancien patron de Safran est déjà très remuant chez Alstom.
Oui, en tout cas, il est très actif, effectivement, comme on l'entend beaucoup dans les couloirs du siège d'Alstom, pardon, et cette transition a commencé. Aujourd'hui, il y a un PDG, Henri Poupart-Lafarge, qui dirige le groupe depuis de nombreuses années, mais le groupe Alstom est confronté à des difficultés financières importantes. Il y a plus de 3,5 milliards de dettes, un plan d'économie de 2 milliards qui est en route, et ce rachat de Bombardier qui date d'il y a maintenant presque 3 ans, qui a du mal à être intégré, et le groupe brûle toujours du cash et donc il y a des difficultés financières. Alors l'actuel PDG va devenir directeur général au mois de juillet, ce qui est quand même assez rare dans ce genre de groupe industriel, et va être coiffé quelque part par Philippe Petit-Collin, qui est connu pour avoir dirigé le groupe Safran pendant de nombreuses années, qui est connu effectivement pour être un dirigeant très impliqué dans l'opérationnel, et on entend effectivement beaucoup dire qu'il est déjà présent chez Alstom depuis plusieurs semaines, qu'il voit beaucoup de monde et qu'il s'implique déjà et en plus il retrouvera chez Alstom le directeur financier qui était aussi celui de Safran à l'époque, donc une forme de duo, qu'on appelle la team Safran chez Alstom et qui laisse penser que l'avenir en tout cas de l'actuel PDG Henri Poupart-Lafarge semble incertain et on attend les résultats annuels d'Alstom début mai qui seront très importants pour voir un petit peu quelles seront les mesures stratégiques qui seront mises en place par cette nouvelle gouvernance.
Mathieu Pechberti. Cette annonce maintenant chez BNP Paribas qui veut accélérer ses mesures d'économie. 400 millions d'euros d'économies supplémentaires d'ici à 2025 pour tenir ses engagements de résultats et de rentabilité et aussi pour rassurer les investisseurs. qui avait plutôt mal accueilli il y a quelques semaines les derniers résultats de la banque. Écoutez les explications de Thibaut François, cofondateur et associé de Fastea Capital. Il était tout à l'heure dans BFM Bourse.
Ils veulent rassurer les investisseurs sur la redistribution. Ils veulent rassurer les investisseurs aussi sur les coûts qui ont plutôt tendance à baisser, qui auront plutôt tendance à baisser dans les prochains exercices. Donc tout ça est plutôt favorable aux marges et plutôt favorable à la redistribution auprès des actionnaires et donc plutôt favorable à une hausse des dividendes à venir. Donc tout ça va plutôt dans le bon sens sur BNP. Les taux ont plutôt monté donc depuis 2 ans. C'est aujourd'hui on a un chiffre d'affaires et des résultats qui sont plutôt en hausse. Donc ça c'est plutôt rassurant pour BNP. Donc avec en plus des frais qui vont plutôt baisser. Donc tout ça est plutôt favorable aux actionnaires.
Allez, 19h06 sur BFM Business. On poursuit avec la très bonne année qui vient de s'écouler pour MBDA. Guerre en Ukraine oblige. Le fabricant de missiles vient d'annoncer un chiffre d'affaires proche des 4,5 milliards d'euros et un carnet de commandes à 28 milliards. Et puis surtout, MBDA a mis l'an dernier les bouchées doubles pour se mettre en mode économie de guerre. Jean-Baptiste Huette.
Après une sévère douche froide en 2023, MBDA rentre dans le rang. Critiqué pour son inertie, le groupe passe progressivement en mode économie de guerre, plus agile et plus productif. Nous avons parfaitement compris l'impatience de nos clients, explique Eric Béranger, le directeur général. Le groupe investit donc dans ses capacités de production, 2,4 milliards d'euros dans les 5 prochaines années, en France avec une nouvelle ligne d'assemblage, au Royaume-Uni, en Italie, une nouvelle usine en Allemagne. MBDA travaille aussi sur ses stocks. Pour soutenir l'augmentation des cadences, il faut des réserves, titane, aciers spéciaux, composants électroniques. Résultat, s'il fallait 42 mois pour livrer un missile Aster en 2022, l'objectif est de passer sous les 18 mois en 2023. Et de multiplier par 3 environ la vitesse de production des autres missiles. Pour soutenir cet effort, 2600 recrutements sont prévus cette année. MBDA compte également instiller une dose d'intelligence artificielle au cœur des usines pour gagner encore en compétitivité. Éric Béranger reste toutefois discret sur les progrès déjà accomplis. Un athlète qui va aux Jeux Olympiques, explique-t-il, ne devient pas d'un seul coup un champion. Il a besoin de plusieurs années d'entraînement.
Jean-Baptiste Huette. Et puis pour finir, c'était quand même l'un des événements du jour, l'audition de Vincent Bolloré à l'Assemblée nationale par la commission d'enquête sur l'attribution des fréquences de la TNT. Je vous propose d'écouter un extrait de cette audition, vous allez le voir, il défend les modèles économiques et éditoriaux de ces chaînes de la TNT. On écoute Vincent Bolloré.
Si par extraordinaire, une des chaînes du groupe Canal était retirée, je pense que ça poserait deux types de problèmes. Un premier type de problème qui est que les équipes vous ont expliqué que c'était un ensemble, c'est-à-dire que c'était dans une table, c'est un des piliers, et que si vous retirez un des piliers de la table, ça pose un problème. Et le deuxième sujet, c'est que ce serait quand même une marque de défiance.
Eh ben voilà, le mot est lâché. Défiance. Allez, 19h08, on part sur les marchés. Ouais. Les marchés, je vous redonne le CAC à la clôture. Le CAC qui bat de nouveaux records. On est au-dessus des 8100 points. 8137 points. On gagne 0,62% aujourd'hui à Paris. Rebonsoir Clémence Tanguy à Euronext. Comment est-ce que ça se passe à Wall Street?
Bonsoir. Alors, à Wall Street, les résultats sont toujours assez mitigés. Hein. Moins 0,29% pour le Nasdaq à 16 218 points. Ça remonte un peu pour le S&P 500, enfin quasi flat. Hein. Plus 0,01%, 5 175 points. Légère progression en revanche pour le Dow Jones, 0,31% à 39 124 points. Du côté du CAC, il a clôturé avec 0,62% de progression, 8 137 points. Parmi les valeurs les plus fortes, se distingue Schneider Electric, BNP Paribas plus 2,08%, Total Energy plus 1,76%. La lanterne rouge chez Alstom en repli de 2,14% à 11,90€. Les prises de profit font chuter le cours de l'action qui a très bien performé hier. Et puis on va élargir un peu la vue. Hein. Il n'y a pas que le CAC qui surperforme. On assiste à une pluie de records en Europe avec un Eurostoxx 50 qui est désormais au-dessus des 5 000 points. Et puis un DAX qui a dépassé les 18 000 points. fois en séance et qui a clôturé à 17 961 points. Sur le marché crypto, là encore des records. Hein, le Bitcoin a battu son record en dépassant les 73 000 dollars. Du côté des matières premières, l'or est toujours très haut, 2179 dollars l'once. Le pétrole aussi remontant après des frappes visant des raffineries russes. Le Brent gagne 2,33% à 83,82 et le WTI 2,39% à 79,41.
Merci beaucoup Clémence Tanguy. Effectivement, c'est une pluie de records et on en débat évidemment tout de suite après la pub avec nos experts et Audrey Tcherkov dans Good Evening Business. À tout de suite.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
19h13 sur BFM Business. Les experts du soir sont là. On commence avec ces deux nouveaux records sur la planète finance. Et pour en parler, Marc Toitier, économiste et président du cabinet AcDéfi.
Bonsoir.
Marc. Jean-Baptiste Djebari, entrepreneur, investisseur et ancien ministre. Bonsoir.
Bonsoir à vous deux. Ravi d'être là.
Et Franck Dedieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. J'en profite pour montrer cette une. Marianne, disponible en kiosque demain. L'épidémie de troubles psy.
Les effets du confinement, on commence à voir les premiers effets à long terme, des effets de nature psycho-sociologique.
Et alors, est-ce que c'est inquiétant?
Oui, très inquiétant, et en particulier chez les jeunes.
On garde le moral sur le fond. Et les marchés aussi, visiblement, on garde le moral.
Alors justement, voilà une bonne nouvelle. Le CAC 40 a dépassé les 8100 points. Les autres places boursières battent des records aussi. Et les dividendes dans le monde, tenez-vous bien, ont atteint 1660 milliards de dollars l'an dernier. Messieurs, comment est-ce qu'on explique cette déconnexion totale entre la santé de fer de nos fleurons français et puis l'économie domestique?
C'est ça. Alors, bon, moi, je dirais que c'est aussi un effet du coronavirus. Hein. C'est-à-dire que cette flambée boursière, elle, c'est un autre effet, pas psychologique, pas seulement. C'est-à-dire lié au fait qu'on a évidemment énormément de cash qui a été distribué pendant ce coronavirus. Ouais. Et ce cash, il est toujours là, parce qu'il a été investi. Les entreprises ont fait des profits, la bourse a flambé, les crypto-monnaies également, etc. Donc les bénéfices étaient là, et donc maintenant ils sont réinvestis.
Alors c'est pas surprenant, vous dites en fait.
Alors voilà, c'est une conséquence logique, parce qu'on n'a pas. Il n'y a plus de purge, entre guillemets. Ouais. Et ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est de voir que quand on voit les flux sur ce qu'on appelle les placements monétaires, on est à 6 000 milliards de dollars au niveau mondial, qui sont dans les placements monétaires. Même Warren Buffett, il a vendu une partie de ses actions pour dire maintenant je me place en monétaire, justement en attendant que ça baisse pour que ça reparte effectivement à la hausse. Quant à votre question, André, sur les profits qui sont évidemment toujours élevés, c'est vrai qu'il y a une déconnexion avec l'économie française. Bon, ça on sait très bien pourquoi. 80% de ces profits pour les boîtes du CAC 40 sont faits à l'étranger. Donc c'est vrai que les entreprises du CAC 40, c'est malheureusement pas les entreprises françaises. Puisque là, si on regarde les chiffres de la Banque de France, alors on aura demain les chiffres du mois de février, mais ceux du mois de janvier, on est sur des records de défaillance d'entreprises. Quand on regarde, quand on enlève les micro-entreprises, donc
alors,
vraiment
sur les PME.
Voilà, sur les PME, on est sur un plus haut depuis 2010. Donc c'est vrai que ça tranche, c'est-à-dire que la réalité de l'entreprise française aujourd'hui, malheureusement, c'est pas du tout celle du CAC 40, parce que justement, ces profits, ils ont été, et c'est vrai qu'ils ont été un petit peu, disons-le, excessifs. Et ça, c'est un impact de l'inflation. Comme c'est classique, hein.
Pourquoi excessif?
Parce que quand les prix augmentent très fortement comme ça, malheureusement, on répercute sur les prix de vente, alors que finalement, les coûts n'ont pas
augmenté. Les marges par l'inflation.
Alors que les coûts n'ont pas fortement augmenté aussi fortement que les prix. Mais ça, après, il y a un effet inverse. C'est-à-dire qu'après, les salaires augmentent, les coûts augmentent, par contre, les prix augmentent moins, voire baissent. Donc là, il y aura réduction de ces
prix. On comprend très bien. En revanche, ce qui est quand même surprenant, c'est que tout augmente. Les crypto-monnaies, l'or, et les valeurs boursières. Jean-Baptiste Djebari.
Non, mais il y a plein de. Enfin, je partage assez ce que Marc a dit à l'instant. Je pense que s'il y a un phénomène de réinvestissement, parce que pour continuer à collecter, il faut investir. Donc, ça, c'est un peu l'espèce de cercle vertueux pour ceux qui le voient comme ça des marchés financiers. Après, quand on regarde par classe d'actifs et par géographie, on peut quand même pondérer un petit peu tout ça. Quand on regarde la classe d'actifs immobilière à l'échelle du monde, on voit bien que ça a repricé un peu partout. C'est le cas déjà aux US, c'est le cas dans le pays de l'Europe. Quand on regarde, y compris les fonds verts, aux États-Unis, on voit une décollecte par rapport aux années précédentes. Si Trump revient au pouvoir, on peut se poser la question de savoir si ça va durer, tout ça. Donc moi, je partage pas totalement l'intuition sur le fait que tout ça soit très très durable. Alors effectivement, on connaît là un moment qui est particulièrement,
euphorique.
Est-ce que c'est durable? J'y crois moyennement. La Chine, sur le plan de l'immobilier, ça peut poser des questions. Enfin bref, je pense qu'il y a des risques quand même systémiques un peu partout. Oui, mais là, on rentre un peu dans le dur.
Ouais, encore. Effectivement, ça se durcit. Franck Dedieu, alors euphorie ou bulle en fait qui va?
Alors, moi, je ne crois pas, malheureusement, je pense que c'est pire qu'une bulle. C'est-à-dire que je vais pas vous faire le coup de la fin de l'histoire, mais
en général, c'est Marc.
Mais alors, allez-y. Se constitue une forme de vie totalement déconnectée entre ces grandes entreprises qui font du profit et qui en font toujours plus. Moi, il y a un chiffre qui m'a alerté quand j'ai regardé de près le CAC 40.
Oui.
C'est que vous avez des records de profit qui cohabitent avec une légère baisse du chiffre d'affaires. Il n'y a pas besoin d'avoir une thèse en comptabilité analytique pour s'apercevoir que si vous avez, dans une période d'inflation, un chiffre d'affaires qui est stable et des profits qui augmentent beaucoup, ça veut dire que quelque part, il y a une marge. Et j'ose dire, il y a peut-être même une surmarge.
Oui.
Où là se pose la question, vous avez été heurté par l'idée des surprofits. Mais il y a
Je voulais savoir ce qu'entendait Marc.
Bien entendu. Mais il y a surprofit quand les consommateurs et les salariés ont le sentiment que ces surprofits viennent d'eux. Ça ne vient pas de l'innovation, ça ne vient pas d'augmentation du carnet de commandes ou des volumes, ça vient tout simplement de la hausse des marges. Alors, on parlera du pricing power, Marc connaît très très bien le sujet. Je veux simplement vous dire que nous, on a regardé après, à Marianne de près. Premièrement, sur le consommateur, effectivement, il se dit, il y a un truc qui ne va pas, peut-être que quelque part, je surpaie mes produits, mais aussi au niveau du salarié, puisque les dividendes, on en a fait 23 sur les 40. On a regardé l'évolution du dividende par action pour les 23 sociétés du CAC 40, il y a 15 jours, qui avaient annoncé leurs bénéfices.
Et
on a regardé la masse salariale par personne de 2022.
Oui.
Vous avez l'augmentation de la masse salariale par salarié qui est de 5%, de plus 5, face à plus 21 de dividendes. C'est-à-dire que les dividendes ont augmenté 4 fois plus vite que les salaires. Donc vous avez une situation où des actionnaires.
Mais dans ces entreprises, pardon, les salariés sont actionnaires aussi. Hein.
Oui, voilà, c'est.
Oui, d'accord. Mais
dans
enfin,
les cas particuliers, ces entreprises. Mais dans les 23 entreprises en question du CAC, ils sont aussi le plus souvent actionnaires.
Certes, ils ont. Enfin, le par rapport, comme ça aussi. Par rapport à la masse de leurs revenus au quotidien, c'est quand même le revenu de leur travail et
mais
pas
est-ce que vous voulez dire,
Franck
de Dieu, qu'il faut taxer les surprofits?
Alors, oui, absolument. Mais juste, je termine sur mon raisonnement du surprofit, de la surmarge et de la sous-distribution de salaire, c'est que, et ça pour le coup on va se retrouver entre libéraux ou non libéraux, c'est-à-dire que ça se fait là au détriment de l'investissement. Parce que ces dividendes dont on parlait, il y a un taux de redistribution de dividendes qui est beaucoup trop élevé. Et donc si vous investissez pas pour augmenter vos salaires, si vous investissez pas pour avoir des actifs plutôt que de racheter vos actions, eh bien vous entraînez dans quelque chose finalement qui peut être une sorte de bulle.
Marc Toiti a l'air dubitatif.
Je reviendrai sur la surtaxation des profits.
Non, j'étais d'accord au début, mais là ça va trop loin. C'est-à-dire qu'en fait, oui, il faut pas oublier
ça
que
ça semble bizarre.
La fin de l'histoire.
Non, c'est-à-dire qu'en fait les dividendes déjà ils sont là pour rémunérer un actionnaire. Il faut quand même pas l'oublier. Et de notre côté, bien entendu. Pour les grandes entreprises, notamment celles du CAC 40, il y a une redistribution, pas seulement effectivement sous forme de salaire, mais après sous forme effectivement d'actionnariat, d'épargne salariale également, il ne faut pas l'oublier, avec de l'intéressement, de la participation. Donc par contre, là où ça ne colle pas, c'est la césure entre les grandes entreprises et puis les PME ou les moyennes entreprises, où là justement déjà elles vont beaucoup plus mal, et par contre les salariés là souffrent.
Oui.
Donc c'est ça moi qui me gêne aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a.
Donc une économie à deux vitesses.
Exactement, c'est cette économie à deux vitesses, et puis surtout, moi ce qui m'inquiète, c'est cette tension sociale et sociétale. Par contre, qu'une entreprise fasse des profits, bon, c'est plutôt bien, entre guillemets, mais il y aura un effet de ciseau demain. Le problème, c'est que ce n'est pas généralisé, et donc on a cette crise. Pour moi, je la vois, moi, je vais beaucoup en province faire des conférences ou autre. Il y a cette crise sociétale qui est en train de s'installer, et malheureusement, les pouvoirs publics qui ne comprennent pas du tout ce qui est en train de se passer. Là, on nous dit ce matin encore, ah, ça y est, on a jugulé l'inflation, tout va bien dans le meilleur des mondes. Attention, c'est l'inflation qui baisse, pas les prix. Donc, si je regarde les biens alimentaires aujourd'hui, on est encore sur une hausse de 23%, chiffre de l'INSEE, hein, parce que bon, en moyenne, c'est une moyenne sur les biens alimentaires. Donc, pour beaucoup de Français, c'est vrai que ça peut poser cette difficulté. Et donc, l'enjeu est là. Par contre, là où, dans les chiffres du bois du CAC 40, si on regarde les derniers chiffres, il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été fait quand même ces dernières années, qui sont supérieurs aux profits qui sont faits. Donc, c'est ça le but. C'est-à-dire les profits d'aujourd'hui sont les investissements de demain et les emplois d'après-demain. Le gros problème,
votre
encore
théorème
une fois,
que vous énoncez,
ce qui me gêne, je termine, c'est que ce qui me gêne, c'est que c'est
pas
diffus aujourd'hui.
Justement, c'est la grande nouveauté. C'est que ce théorème de Schmitt, social-démocrate allemand prononcé en 1974, chancelier, qui dit les profits d'aujourd'hui sont les investissements de demain et les emplois d'après-demain, ça ne marche pas. Et c'est pas depuis
un an. Ça ne marche plus.
C'est pas depuis un an. C'est depuis à peu près une trentaine d'années que ça ne marche plus.
Ça fait depuis une trentaine d'années
que vous avez
en France,
finalement une non pas une bulle, mais un système qui auto-entretient des surprofits et qui peut rester très longtemps. Pourquoi ? Parce que, eh bien, il y a une pression des actionnaires qui menace les patrons, qui sont des agents actionnariales des actionnaires, qui menacent de changer leur
investissement. Jean-Baptiste Djebbari n'est pas d'accord
avec
lendemain.
Non, mais je ne suis pas en total désaccord, mais j'ai des points de variation. D'abord, il y a eu beaucoup d'augmentations. Moi, dans les secteurs que je connais, on a passé beaucoup d'augmentations salariales. Dans les secteurs du transport, de la logistique, de l'énergie, oui. Vous avez des augmentations qui n'ont jamais eu lieu.
Augmentation historique, c'est vrai.
Historique. Deuxièmement, l'effet de la marge, c'est pas toujours le fruit, pour le coup, du travail. Il y a beaucoup d'effets rareté qui ont prévalu dans l'énergie, dans la logistique. Rappelez-vous des taux de frais, des tarifs des conteneurs qui ont augmenté. Ça n'avait rien à voir avec la main-d'œuvre et la qualité de la main-d'œuvre et son travail. Ça avait tout à voir avec les effets de rareté du marché. Troisièmement, pensez que le CAC 40, dans son organisation, représente ce qui se passe en France et correspond exactement, et là je partage complètement ce que dit Marc, je pense que c'est une illusion un peu de l'histoire. Et quatrièmement, c'est sûr que des grandes boîtes du CAC qui ont fait d'énormes profits sont aussi, je prends Total par exemple, qui a fait des profits historiques, est aussi face à un mur historique.
Et des rachats d'actions historiques aussi.
Et des rachats d'actions historiques. Oui, donc tout ça, j'ai l'impression que si on veut faire parler les profits du CAC 40 comme étant un miroir absolument parfait de ce que serait l'économie française, là pour le coup ça marche.
Sur le terme de bulle, parce que c'était aussi la
Marc
question.
Marc et Franck.
Oui, bien sûr. Moi, je pense qu'il y a quand même une bulle. C'est-à-dire que quand on regarde effectivement aujourd'hui la réalité des entreprises cotées en bourse, on va dire au sens large. Tout à l'heure, Emmanuel a dit une petite bêtise, mais parce que quand on prend le PER...
Allez-y,
le PER, non, voilà, c'est bon. Le PER, c'est ce qu'on appelle le price-earning ratio. Ça veut dire combien de fois la valorisation d'entreprise capitalise les profits.
Ouais.
Donc, en moyenne, sur le CAC 40, enfin bon, on estime que c'est autour des 12. Alors, ça peut monter à 15, 16, 17. Mais si je prends la moyenne du CAC 40 aujourd'hui, bon, il a dit que c'était 13. En fait, non, on est à 23. Donc, le marché est un petit peu cher. Si je prends des valeurs comme Hermès, qui sont des très belles valeurs, est à 55 de PER. Ouais. Est-ce que je veux dire, c'est quand même un peu cher. Même si j'ai pas de doute sur le luxe qui va très bien fonctionner demain. Si je prends des valeurs...
L'action Hermès, ça vaut un produit Hermès.
Voilà,
c'est 2300 euros.
Ouais. Voilà. Si je regarde aux États-Unis sur la bulle qui s'est reformée, parce que là aussi, il y a quand même, on va en parler tout à l'heure, la bulle de l'IA qui s'est reformée, le Nasdaq, rendez-vous compte, on a eu, lors de la bulle Internet, le Nasdaq a augmenté de 1100% en 15-20 ans. Ouais. Là, lors de la bulle du numérique, sur la même période, il a augmenté de 1165%. Le sommet de la bulle était en 2020-2021. 2022, ça a chuté de 38%. Et là, on est remonté de quasiment 60%, c'est-à-dire on est au-dessus du plus haut de 2021. Donc la bulle s'est complètement reformée, et ça, on n'a jamais vu ça.
Plutôt inquiétant.
Ben oui, parce que deux bulles en deux ans, et c'est sûr que... Moi, je faisais des débats justement dernièrement, justement sur cette valorisation, et c'est vrai que beaucoup d'investisseurs boursiers, bon, c'est normal, c'est leur business, ils me disaient, non, il n'y a pas de bulle. Parce que c'est vrai, les profits sont là, ils prêchent pour leur paroisse, bien entendu, mais les profits sont là, les taux d'intérêt vont baisser, l'inflation baisse, donc tout va bien dans le meilleur du monde. Il faut quand même être prudent, c'est-à-dire qu'on a un niveau de valorisation aujourd'hui qui s'explique parce qu'on a cette flambée boursière.
D'accord, mais juste attendez, parce que vous avez raison, mais j'aimerais quand même rebondir sur le fait que, Franck de Dieu, vous dites que quand il y a beaucoup de distribution de dividendes, les entreprises n'investissent plus. C'est pas vrai. En France, l'an dernier, 67 milliards d'euros de distribution de dividendes, record, très bien. Elles ont investi en parallèle 94 milliards d'euros, c'est-à-dire autant que ce qui a été distribué aux actionnaires et autant que ce qui a été fait en rachat d'actions. Donc ça veut dire qu'on peut quand même tout faire en même temps.
C'est un arbitrage. Moi, je trouve que dans une société normale qui croit un peu à l'innovation, qui croit un peu au capitalisme, qui croit un peu à l'inventivité, quand vous distribuez la moitié de votre profit pour rémunérer une action et la moitié pour penser à l'avenir, ce n'est pas normal, ce n'est pas une répartition normale. La répartition normale, ça serait un tiers, deux tiers. On pourra en discuter pendant des heures de cette répartition. Mais vous avez tout de même un problème d'investissement qui va finir... Parce que
oui, mais la question, c'est est-ce que les dividendes sont réinvestis ou pas dans l'économie réelle ?
Mais non, mais en fait, ils sont réinvestis dans l'économie réelle, ils sont réinvestis dans... C'est en ce sens que, quelque part, on peut même imaginer... C'est là où j'étais pas totalement d'accord avec Marc, et peut-être que l'histoire me donnera tort. Demain, s'il y a un éclatement de la bulle, je dis pas qu'il y a bulle ou pas bulle, je veux pas jouer à ce jeu-là, c'est pas mon métier. Mais je dis simplement que je me pose la question, si vous me permettez, d'avoir une analyse un peu marxisante. Si vous me permettez.
Tout est permis.
Oula.
C'est que je me demande si
en fait. Vous pardonnez, tant que c'est costaud derrière.
Je me demande si en fait ils ont pas trouvé une martingale.
C'est-à-dire
que vous avez pas de, d'augmentation du chiffre d'affaires, pas de volume, il n'y a pas de croissance, parce que ce que vous dites sur le CAC 40, vous avez raison, ce n'est pas représentatif de la France, mais le S&P n'est pas représentatif des États-Unis. Autrement dit, ce n'est pas une question géographique, c'est une question quelque part de classe. C'est-à-dire, vous avez les actionnaires qui ont trouvé une véritable martingale pour augmenter sans cesse leurs profits, parce qu'ils deviennent de plus en plus gros, parce qu'il y a des flux de liquidités, peut-être un peu moins hier, mais en gros, sans volume, sans l'aide du public, parce que qu'est-ce que c'est que le chiffre d'affaires ? C'est le volume de l'économie réelle, c'est l'indicateur de l'économie réelle, du tangible.
Ouais.
Eh bien, il est en crise, à peu près partout, ou quasiment en crise. Et vous avez pourtant des bénéfices qui augmentent. Et l'année prochaine, il est bien possible, Marc, qu'on ait une stabilité, même une décroissance légère du chiffre d'affaires et une augmentation du profit. C'est-à-dire que je me demande si, au fond, ils ne sont pas trouvé le moyen de proroger ad vitam aeternam leur domination financière sur l'économie réelle.
Attendez, Jean-Baptiste Djebari, pour conclure sur le sujet.
Non, je me demandais qui était il.
Ah ben il c'est les actionnaires, c'est les actionnaires.
Actionnaires et ouais top management.
C'est-à-dire que vous avez une de l'auto entre quelque part ça s'auto entretient.
Après est-ce qu'une grande
vous
entreprise
avez des dividendes qui sont réinvestis dans des actifs qui augmentent. Et donc effectivement vous avez au fond vous n'avez presque plus besoin de l'économie réelle.
Ouais est-ce qu'une grande entreprise peut éternellement divorcer avec ses clients c'est non, pas sûr. On voit que Stellantis typiquement ils sont en train de faire machine arrière. Hein. Ils disent là on a perdu des parts de marché en Europe aux États-Unis on peut plus faire ça. Non, donc là ils vont rebaisser les prix.
Si vous regardez l'augmentation des profits
mais justement mais c'est ça le principe de la bulle
c'est pas sûr que ce soit
mais c'est ça le principe de la bulle c'est que on se déconnecte alors après faire attention parce qu'au niveau mondial si je prends les entreprises du luxe par exemple elles cartonnent vraiment c'est-à-dire avec dans le monde émergent il y a une croissance
forte aujourd'hui en Inde etc.
Par contre juste pour terminer sur cette bulle etc. moi il y a quelque chose parce qu'en fait tout monte tel Audrey le disait parce qu'on pourrait dire les crypto-monnaies etc. là il y a même pas
oui les valeurs refuges montent aussi
incroyable mais surtout l'or moi ce qui m'inquiète enfin quand on voit que l'or bat des records, normalement c'est anormal. Je mentionne sur ma chaîne YouTube, j'ai fait une vidéo hier où je montre justement cette corrélation entre l'or et par exemple l'inflation ou l'économie mondiale ou les marchés boursiers. Et normalement, quand les marchés boursiers vont bien, l'or a tendance à baisser. Et réciproquement, là on a les deux qui vont de concert.
Oui, mais ça veut aussi dire qu'il y a un excès de cash.
Oui, peut-être, mais je pense qu'il y a également, vous savez ce que j'appelle la poire pour la soif. C'est-à-dire qu'il y a quand même des investisseurs qui se disent là ça va trop bien en bourse ou ailleurs, mais c'est pas normal.
Ils savent
qu'il y a un petit problème et donc que l'or monte ou alors il y a quelque chose qu'on ne connaît pas.
Il y a quand même des risques systémiques qui sont connus.
C'est ça, voilà, il y a des risques systémiques qui sont. Oh, on veut pas les voir.
Et les risques géopolitiques d'ailleurs,
on ne veut pas les voir.
Bon, et moi je trouve que le marché des cryptos, c'est effectivement tout à fait maintenant, notamment sur les titres les plus connus, un marché d'épargne de précaution.
C'est une nouvelle heure, c'est une nouvelle valeur refuge, effectivement. Bah, allez, voilà. 19h30, on marque une pause, messieurs, dames, et on je vous donne les principaux titres de l'actu. D'abord, avec cette cyberattaque, ces cyberattaques qui se poursuivent en France contre l'administration. Et cette fois-ci, c'est France Travail, le successeur de Pôle emploi, qui annonce avoir été la cible de hackers, avec 43 millions de personnes potentiellement concernées par la cyberattaque, c'est-à-dire toutes les personnes inscrites depuis 20 ans dans les fichiers de Pôle emploi. France Travail ajoute que l'attaque, a priori, n'a rien à voir avec celles qui ont frappé plusieurs ministères dimanche soir dernier. Le ministre des Comptes Publics, Thomas Cazenave, annonce un montant record de redressement contre le travail au noir, 1,2 milliard d'euros récupérés en 2023 grâce à la lutte contre le travail dissimulé. C'est 50% de plus qu'en 2022 et le gouvernement vise un objectif de 5 milliards d'ici 2027. Nissan envisage un partenariat avec Honda dans les véhicules électriques, c'est ce que révèle la chaîne TV Tokyo. L'accord pourrait inclure des achats mais aussi des développements conjoints. Une information qui intervient alors que Nissan a réorganisé son alliance avec Renault il y a quelques mois. Et puis le directeur de Sciences Po Paris, Mathias Vichra, a annoncé dans la journée sa démission après avoir été renvoyé en correctionnel dans une affaire de violence conjugale. Une administration provisoire va être nommée dans les prochains jours. Mathias Vichra avait pris la direction de Sciences Po Paris en 2021. Allez, 19h32 sur BFM Business. On marque une pause, Audrey.
Restez avec nous, on parle intelligence artificielle, on parle réseaux sociaux et bien d'autres choses. À tout de suite.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
19h32 19h33 sur BFM Business, les experts sont avec vous. Ils vous parlent de cette décision, de ce coup de tonnerre qui vient de tomber aux États-Unis. Nous sommes avec Marc Toitier, Jean-Baptiste Djebari et Franck Dedieu. Donc la Chambre des représentants, ça y est, a voté l'interdiction de TikTok aux États-Unis. Alors, sauf si la plateforme coupe ses liens avec la Chine. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on peut dire quelque part que les Américains sortent l'artillerie lourde contre les Chinois, Jean-Baptiste?
Alors que Biden vient de faire un TikTok pour lancer sa campagne électorale.
Tout à fait. Alors vous, d'ailleurs, parce que vous êtes l'homme aux millions de followers sur TikTok.
Vous le coachez au Joe Biden?
C'est une bonne idée.
Je vous la donne.
C'est parti du coup. Mais je pense que là, on est vraiment dans la politique pour le coup. On est vraiment dans cette mise en acte de la rivalité systémique entre la Chine et les États-Unis. Alors même que les Chinois démontrent en Chine qu'ils peuvent parfaitement réguler TikTok, alors même qu'il y a de la concurrence face à TikTok, et que le vrai sujet de TikTok, c'est la viralité de son algorithme, et qui est parfaitement réplicable par d'autres.
Oui, c'est aussi l'accès aux données personnelles.
Oui, mais qui est, pour le coup, irrégulable, comme n'importe quelle plateforme, a priori, sur un marché intérieur comme les États-Unis, qui sait à peu près de quoi il parle quand on parle des données personnelles. Il l'a prouvé dans le passé. Donc je pense qu'on est dans la politique. Donc, soit on est sur un sujet de régulation, soit on est sur un sujet assez politique, facial, de cette mise en œuvre, ou mise en scène de la rivalité systémique, et je pense qu'on est plutôt sur le deuxième sujet.
Franck Dedieu.
Moi, je pense qu'on est sur les deux sujets. Vous l'avez traité sur la rivalité Chine-États-Unis, je n'y reviens pas. Il y a aussi un sujet qui vaut aussi pour la France. C'est presque un sujet, pardon d'employer ces mots un peu cuistres, mais anthropologique. C'est-à-dire que quelque part, on est en train d'avoir des applications qui ont des effets cognitifs avérés, qui ne fait l'objet d'aucune... équivoque sur le plan scientifique des effets néfastes sur la concentration des enfants. Et c'est pas étonnant que la Chine, qui, cette application, je le rappelle, est chinoise, la Chine n'applique pas son propre application, quelque part, à son pays. Puisque vous avez, je crois, sur l'application Douyin, qui est l'équivalent
c'est
chinois,
beaucoup plus régulé.
Vous avez 40 minutes par personne au maximum pour les mineurs. Oui, donc, si vous voulez, c'est quand même...
que là, vous parlez du sujet de concentration. Mais le vrai sujet, c'est pas ça. C'est que les experts américains disent que cette application permet à Pékin d'espionner les États-Unis manipuler les 170 millions d'utilisateurs TikTok.
C'est ce qui a été très bien dit par mon voisin, je ne vais pas y revenir sur ce sujet-là. Je voulais simplement insister sur le caractère éducatif et sur les effets à long terme de la concentration, du rapport à la lecture, de quelque chose qui touche qui est quasiment neurologique. Oui. Et donc, je pense qu'il y a quelque chose de véritablement néfaste. Nous, lorsqu'il s'agissait de réarmement civique, nous avons édicté 21 commandements ou 21 actes, idées pour réarmer civiquement. Et pour réarmer civiquement, on avait choisi l'idée d'interdire...
Les réseaux sociaux.
Alors, pas tous, mais quelques réseaux sociaux aux mineurs. Eh bien, on s'était dit, on va peut-être un peu loin quand même, est-ce que c'est pas un peu liberticide, etc. Nos lecteurs nous ont écrit, beaucoup de lecteurs nous ont écrit pour dire qu'ils étaient...
Il y a des abonnés Marianne.
Très favorables à ce que... ils aient... Non, mais parce que les abonnés Marianne, oui, bien sûr, ils ont un côté un peu très favorable à ce qui est la régulation, mais vous avez aussi quand même des parents qui sont très 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 démunis face à ce phénomène-là.
Véritablement, si la Chine réussit à réguler sur son territoire, pourquoi les États-Unis ne régulent pas sur leur territoire?
On est d'accord, c'est une bonne question.
Marc Toitier. Non mais moi je pense que le vrai enjeu...
Est-ce que c'est de la guerre commerciale par d'autres moyens que les droits de douane?
Oui, mais non, mais je pense que le vrai enjeu, il est là. C'est-à-dire qu'en fait, est-ce que c'est pas le moyen d'une guerre commerciale et surtout d'une guerre, on va dire, économique, politique, géostratégique. Bon, on va prendre les grands mots, mais c'est vrai que c'est un vrai enjeu. C'est-à-dire que quoi, les Chinois n'appliquent pas ce qu'ils font chez eux ailleurs. Il y a un vrai enjeu. Et puis derrière, je pense que les Américains, parce que j'ai regardé un petit peu les débats, ils ont été, alors pour l'instant, la loi, enfin, ils leur ont demandé de faire des modifications. Peut-être qu'ils vont le faire d'ailleurs TikTok. Mais peut-être
ils ont dit soit vous coupez les ponts avec la Chine, dans 6 mois vous êtes dehors.
Oui, non mais. Ça veut dire qu'ils ont quand même des preuves. Certainement qu'il y a peut-être des données qui sont utilisées. Et là, plus globalement, moi je pense qu'on est un peu des enfants de cœur, si vous voulez. C'est-à-dire que les Chinois, ils s'amusent pas. C'est ce que je veux dire, c'est-à-dire que eux, ils ont une volonté, voilà, de dominer le monde. Alors pas militairement, hein, bien entendu, hein, mais plutôt économiquement parlant, d'un point de vue de l'information. Mmh. Donc, faut pas être des enfants de cœur.
C'est vrai, parce qu'au-delà de réguler le volume d'heures, la Chine régule aussi les contenus et la qualité de leurs contenus.
La qualité, sûr, et puis également, bon, il y a les revenus, parce que ça génère effectivement des revenus assez colossaux. Donc moi, je trouve ça bon. C'est peut-être un petit peu logique. Maintenant, c'est vrai que c'est les États-Unis, donc le monde du libéralisme normalement. Donc c'est vrai que c'est un petit peu bizarre de contraindre. Est-ce que c'est pas également un moyen de permettre aux je sais pas moi à Meta ou à autres d'entreprises concurrentes de faire mieux entre guillemets?
Ah bah ça c'est ce qu'a entendu tout de suite Donald Trump.
C'est ce que dit Donald Trump.
Il y a peut-être ça aussi. Donc c'est vrai que c'est pas très libéral entre guillemets, mais d'un autre côté moi je pense qu'il y a une vraie, au-delà de la santé mentale, certainement il y a des effets. Il y a peut-être, je pense, un vrai enjeu de sécurité. Moi je suis toujours inquiet, hein, parce que moi aussi j'ai un iPhone, je suis sur YouTube, ce que vous voulez. J'ai pas fait TikTok parce que justement j'avais peur de ça. Mais c'est vrai que je me dis, désolé hein, mais c'est vrai que je me dis, est-ce qu'on perd pas? Aujourd'hui, mon compte a été Twitter, il a été quelqu'un a créé un nom, Marc Poiti, il a mis à des tirés en bas.
C'est la rançon de la gloire, Marc.
Non, d'accord, mais sauf que j'ai heureusement que des followers m'ont dit oui, attention, il y a. Mais c'est exact, avec ma photo, etc. Ouais. C'est quand même extrêmement dangereux tout ça.
Avec l'intelligence artificielle, on en est qu'au début. Hein.
Non, mais c'est là où soyons quand même très prudents. Je pense qu'on a perdu le contrôle. Il faut qu'on reprenne ce contrôle.
Mais ça passe par de la régulation.
Et ben exactement. Ça passe par la régulation. Et c'est peut-être que aujourd'hui, ce que veulent faire entre guillemets les Américains, mais moi je pense qu'il faut montrer patte blanche.
Jean-Baptiste Djemari.
Il y a trois sujets. Il y a le sujet qui exprimait très bien Franck sur le rapport aux écrans et finalement la déformation ou les dysfonctionnements cognitifs qu'on peut générer pour nous-mêmes en utilisant tous les écrans. Ouais. C'est un premier sujet, il est majeur, c'est pas d'hier, hein, mais il est forcément plus aigu aujourd'hui avec tous ces écrans et toutes ces propositions qu'on a tout le temps devant les yeux. Il y a le sujet effectivement des données et de la guerre commerciale. Et puis après, il y a le sujet de la manipulation de l'information à des fins de déstabilisation politique, etc.
Et on voit bien que tout le monde l'utilise, la Russie, la Chine, mais pas nous.
Et je pense que derrière, si on regarde un peu les sujets de sécurité, il y a peut-être un peu ça. Alors, est-ce que c'est totalement démontré? Est-ce que c'est totalement aujourd'hui démontrable, d'ailleurs? Est-ce qu'on ne fait pas un peu un mélange habile de tout ça pour habiller une guerre commerciale qui n'y pas son nom? Je pense que la vérité est probablement un peu au milieu de tout ça.
Mais alors, d'ailleurs,
c'est un sujet pour l'Europe, il est vraiment important, parce que pour le coup, l'Europe commence à mettre en place des régulations.
On va en parler.
Mais je crois qu'on est géopolitiquement moins armé pour l'instant pour avoir une régulation.
Mais juste, oui, absolument. Mais est-ce que sur le point de la guerre commerciale, est-ce que les États-Unis peuvent s'attendre à des représailles de la part de la Chine?
Les Chinois, ils ont tout bloqué de toute façon. Il y a pas Google, il y a pas d'entreprise américaine qui
sont en train de déborder sur une filière.
Non,
mais vous savez, moi j'ai toujours dit, d'un point de vue économique et géostratégique, les Chinois et les Américains, ils s'entendent.
Ils ont besoin l'un de l'autre.
Ils ont besoin l'un de l'autre. N'oublions pas que la Chine détient 1 100 milliards de dollars de bons du trésor américain. Faut pas l'oublier. 3 200 exactement milliards de réserves de change en dollars.
D'accord.
Donc ils ont pas tous les Américains.
Guerre commerciale, c'est fond.
Non, mais en fait, il y aura un dindon de la farce. Le dindon de la farce, ça sera nous. Ouais. Rappelez-vous, bien sûr. Ouais. Rappelez-vous quand Trump avait augmenté les droits de douane, vous souvenez, contre les Chinois, qu'ils ont fait les Chinois, ils ont dévalué le yuan du montant de la hausse des droits de douane. C'est énorme. Parce que la devise chinoise, le yuan, il y a le contrôle d'échange. Ouais. Donc c'est une devise qui est contrôlée. Ouais. Donc, encore une fois, ne soyons pas des enfants de cœur. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui...
Vous avez vu qu'en Europe, on menace de possible baisse de droits de douane, hausse de droits de douane, pardon, sur la voiture électrique. Ce seraient nos cognacs, liqueurs et spiritueux qui trinqueraient avec des hausses de droits de douane.
Ben oui, mais le problème, c'est encore une fois. Mais là, on a un problème sur les importations et exportations. C'est que, moi, je veux bien qu'on ferme les frontières, mais il y a des produits qu'on ne fait plus du tout en France.
Ah, il y a un problème.
Notamment sur les voitures électriques.
Il y a une dépendance en Europe.
C'est ça. Donc, on est
majeur et
pour les terres rares, notamment.
On s'est rendu dépendant. On s'est rendu complètement dépendant. C'est ça qui est dramatique.
Et effectivement, sur les terres rares, parce que là, on est en train
Les Américains aussi sont dépendants.
Oui, mais par exemple, sur l'énergie, ils ne le sont plus. Les Américains sont potentiellement nets depuis 2015. Alors c'est leur pari initial sur le gaz de schiste qu'on a vidipendé en Europe pour probablement des bonnes raisons économiques.
Ils gagnent beaucoup plus d'argent avec le GNL depuis la guerre en Ukraine.
Et les Américains, ils ont une capacité aussi, disons-le, à exécuter qui n'est pas la nôtre. Sur le sujet de l'hydrogène, on voit bien, ils lancent un secteur, ils arrivent assez rapidement à le
subventionner. Ça, c'est l'IRA américain.
Et l'IRA américain fait qu'aujourd'hui, on importe, nous, en Europe, ou on importera, nous, en Europe, de l'hydrogène pas si vert que ça, produit aux États-Unis.
On marche sur la tête.
On n'est pas assez rapide dans l'exécution. Je pense qu'on a souvent des bonnes idées. On a probablement, on a une approche très normative des choses. C'est-à-dire que nous, on fait des normes en pensant que voilà, le plan voilà, suit, voilà, pour le dire de façon pudique.
Et c'est un ancien ministre, là. Vincent,
Oui, mais exactement. Mais je vous rappelle que le gouvernement actuel a promis un choc de simplification et un choc, et un choc d'accélération.
Oui, mais c'est parce que, bon, il n'est pas tout à fait à mener qu'au niveau français. Pour le coup, si on considère que l'Europe est une puissance commerciale normative, industrielle, et que sais-je encore. Après, il faut aussi se rendre compte des données qui sont absolument, pour le coup, tangibles. On n'est pas un continent de production énergétique. Je pense quand même que ceux qui font l'industrie et ceux qui exploitent les sols, tous azimuts, sont des continents qui sont dans des positions, évidemment, probablement supérieures aux nôtres.
Ouais. Alors, pendant ce temps, effectivement, on doit avoir la France et l'Europe qui se bougent. C'est ce qu'on essaie de faire dans l'IA, où là aussi, pour le coup, la Chine et les États-Unis ont pris beaucoup d'avance sur nous. Ouais. On a deux actus aujourd'hui qui sont tombées. D'une part, les députés, ça y est, européens, qui ont voté le fameux IA Act. Et d'autre part, en France, un rapport très attendu, remis à Emmanuel Macron aujourd'hui, qui demande à la France de ne pas passer la seconde, mais la troisième. Il faut investir trois fois plus d'argent pour qu'on reste dans la course. Franck Dedieu, comment est-ce qu'on fait pour trouver 15 milliards d'euros par an ? Enfin, sur les 15 milliards, il y a 5 milliards publics, quand on est à l'euro près, comme dit Bruno Le Maire, et en pleine période 20, de disette. Oui, voilà, ouais. 30.
Même, 50, 30. Ils ont la Cour des comptes.
Oui, voilà. Oui.
On pense comme un banquier d'affaires, c'est-à-dire que l'actif, l'argent, on regarde son retour sur investissement possible. S'il nous coûte 3%, eh bien, quelque chose qui me coûte 3% et qui, dont la perspective est de me rapporter 5 ou 6, ou 10, ou 20, eh bien, ça vaut le coup de s'endetter. Voilà, je vois pas pourquoi on considère que c'est formidable quand une entreprise du CAC 40 s'endette en réinvestissant, et lorsque c'est l'État, c'est pas possible. Alors, l'État, oui. Moi, je ne suis pas un expert, parce qu'il y a quand même une expertise, une technicité que je n'ai pas en ce qui concerne la capacité économique de retour sur investissement sur l'IA. Mais d'après ce que j'ai lu, les spécialistes disent que les Français sont plutôt bien placés.
Oui.
C'est d'ailleurs pourquoi il y a eu une sorte de changement de pied de la part du gouvernement, de se dire au départ, oh, on est très régulation, puis au fur et à mesure que finalement on s'aperçait que les acteurs français étaient plutôt bons,
oui, de moins en moins,
plutôt bons en maths, ben on disait, oh, attendez, on va quand même pas couper l'herbe sous le pied de l'innovation, et c'est de bonne guerre après tout, pour une fois où on n'est pas naïf et où on se dit qu'il y a quelque chose, une sorte de malice patriotique, je vais pas m'en plaindre. Après, ce que j'entends sur à la fois la directive européenne et puis le rapport, c'est de se dire, on a cherché le curseur, qui est un peu une sorte de pierre philosophale, quelque part, en se disant, il y a suffisamment de régulation pour que ça ne soit pas dangereux, et tout de même une certaine plasticité pour que ça favorise l'innovation et la création d'emplois. Alors moi, ce discours-là, je l'ai entendu plein de fois, Marc aussi, quand il s'agissait de réguler l'innovation financière. On se disait, non mais là, on a régulé le marché des options, des subprimes, des CDR squares, etc.
Ouais, et
vous allez voir. Et quand même, il faut que ces créateurs d'emplois, ces créateurs de richesses, il y a Londres, mais demain, il y aura la Bourse de Paris, etc.
La phrase de Thierry Breton aujourd'hui, c'est « Nous réglementons le moins possible, mais autant que nécessaire. »
Voilà, mais c'est, en fait, mais toutes les citations...
C'est en même temps, ouais.
Toutes
les
citations. C'est une bonne
phrase, Yannard, ça. Oui, mais c'est assez habile. Hein. Parce que toutes les citations sont sur cette idée d'équilibre entre... Ouais. Et c'est d'autant plus difficile qu'on est sur une matière dont on ne sait pas exactement ce qu'elle va devenir.
Début, ouais.
Donc effectivement, vous êtes dans la peau d'un régulateur. C'est quand même beaucoup plus simple de faire de commentaires sur le plateau de BFM que d'être un régulateur
sur un sujet qui est très technique. Quand on lit dans ce fameux rapport qui a été donné à Emmanuel Macron aujourd'hui que l'intelligence artificielle pourrait créer 1,3 point de croissance supplémentaire en France sur les 10 prochaines années, c'est quand même une bonne raison de s'endetter.
Sauf qu'on n'en sait rien. Non mais ça, il faut être honnête, c'est du pipeau, excuse-moi l'expression. C'est-à-dire que toutes ces projections, déjà on n'arrive pas à faire une prévision à 6 mois, alors là...
Vous êtes le premier à en faire tous les jours.
Oui, mais moi c'est mon métier. Mais moi, je ne fais jamais cette prévision-là. Parce que ça, c'est du calcul au doigt mouillé. Ça peut être une révolution technologique, comme ça peut être.
Mais c'est
comme ça peut faire
la difficulté.
C'est Philippe Aguillon qui fait les calculs.
Mais il s'est trompé comme tout le monde, il n'y a pas de mal. L'erreur est humaine. Mais ce que je veux dire, c'est que ça peut être plus d'ailleurs. Le problème qui est très simple.
Non, mais en tout cas, c'est une bonne raison de s'endetter.
Non, mais c'est ça la question centrale. La question centrale, elle est là. C'est qu'effectivement, la clé de l'avenir, elle est dans l'innovation. Et ceux qui l'ont bien compris, justement, c'est les Chinois. Parce qu'on croit encore que c'est des copieurs. Les Chinois, bon, ils copient toujours, mais surtout, ils innovent. Comprenez ? Mais c'est incroyable. On a encore cette erreur. Aujourd'hui, la Chine, c'est le pays qui investit le plus en R&D dans les énergies renouvelables. C'est la deuxième puissance mondiale dans les R&D au niveau global, derrière les Américains. Nous, évidemment, on est loin derrière. Mais le problème, il est très simple, c'est que moi, je suis d'accord à mettre encore de l'argent public. Quel est le pays aujourd'hui où la part de la R&D publique est la plus élevée? C'est la France. C'est déjà nous. Mais oui, c'est la France.
C'est dingue.
Eh oui, c'est plus de 60%, plus de 50%. Coup, donc le retour de l'investissement, il n'est pas là. Et c'est vieux comme le monde. C'est une phrase que disait le général de Gaulle quand il a inauguré le CNRS. Il dit, des chercheurs qui cherchent, on en trouve. Des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Vous la connaissez?
Ah oui. Mais c'est ça le problème. C'est notamment dû au crédit d'impôt recherche.
Regardez la voiture, je termine sur la voiture électrique. Oui. À la base,
c'est nous, Jean-Baptiste Gemma.
C'est la France à la base. Dans les années 80, la technologie, elle existait déjà. Et pour X raisons, on ne l'a pas développée. Et aujourd'hui, on nous disait, moi, pendant des années, j'ai vu tous les constructeurs, ils me disaient, la voiture électrique, c'est forcément une petite voiture qui ne roule pas vite, etc. Et on voit ce qu'on a créé ensuite.
Ça est arrivé.
Donc, c'est ça le problème, c'est qu'il faut oser innover. Et je pense qu'il nous manque un acteur de l'investissement qui est des fonds d'investissement de très long terme, qui ont de l'épargne bloquée 30 ans, 40 ans pour gérer les retraites.
Bah justement, c'est qui prennent des risques du rapport.
Et nous, c'est ce qui n'existe pas, malheureusement, chez nous.
Jean-Baptiste,
je suis partout d'accord avec ça. Il faut oser innover sur ce qui constitue les avantages compétitifs de dans 10 ans, 15 ans, à force de.
Il faut innover.
Et pas maintenant, et pas faire du rattrapage sur les technologies qui vont être développées chez nous et être obsolètes le jour où elles sont commercialisées.
Ah, c'est clair.
Et souvent, on a tendance à faire ça.
Mais c'est exactement ça.
Singulièrement, l'Europe fait en ce moment une guerre de rattrapage aux États-Unis d'une part, en Chine d'autre part, pour probablement faire des technos qui vont être assez rapidement dépassées.
Vous pensez à quoi, là? Aux panneaux solaires, tout ça, pardon?
Non, je pense que les panneaux solaires, c'est un coup, pour le coup, assez largement perdu, parce que dans la chaîne de valeur. Je pense aux Gigafactory, par exemple, c'est très bien de le faire, mais il faut aussi penser les technos d'après et industrialiser les technos d'après. Ouais. Je pense à tous les. Pour le coup, quand on est un État, on doit s'intéresser aux moyens très long terme, ou quand on est un fonds souverain. Il y a des révolutions énergétiques qui s'annoncent dans ce siècle, sur le nouveau nucléaire, la quatrième génération, la fusion nucléaire. Ça doit intéresser l'État. C'est le temps très long. Et ça ne se gère pas du tout comme ce qu'on évoque aujourd'hui. Ou pour le coup, je pense que l'État doit définir beaucoup plus les sujets de souveraineté. Et dans l'IA, il y a des sujets de souveraineté. Et puis, il y a tout un écosystème dans lequel on doit réhabiliter le financement public-privé. C'était un peu notre discussion d'avant sur les grosses boîtes du CAC 40 qui doivent pleinement jouer leur rôle aussi dans être catalyseur de l'innovation et pas toujours attendre d'avoir du cash pour venir quand ça frémit.
C'est évident que c'est l'État, quand on voit les grandes révolutions technologiques menées par la France, si on prend effectivement le nucléaire ou l'aérospace, etc., c'est l'État qui a dépensé à la base. C'est l'État qui a donné le là, parce qu'il avait les moyens. Mais maintenant, on a une telle dette publique qui est énorme. Donc, on entretient le mammouth en permanence, donc il n'a pas les moyens justement de le faire. Et encore une fois, moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on va mettre. On a le sentiment souvent en France que parce qu'on met quelques milliards, ça va suffire. Et non, ce qu'il faut, c'est une dynamique, justement, et bien innover, c'est-à-dire savoir où on va et pas juste
et puis avoir un projet de société, surtout.
Bah voilà. Exactement.
Et puis
ce qui nous manque.
Je pense que la planification, dans ce contexte-là, n'est pas du tout un gros mot, mais que la planification et le saupoudrage des moyens financiers sont complètement antinomiques.
Oui, c'est contradictoire.
Et je pense qu'il ne faut pas saupoudrer. Il faut que l'État définisse comme État stratège sa vocation, ce qu'elle a.
Mais ça, c'est France 2030 dont vous parlez.
Oui, bien sûr, mais pour le coup, France 2030, c'était plutôt pas mal. Parce qu'on est parti des objets.
C'est toujours en cours.
Sans ce contraire, bien sûr. Mais dans la philosophie.
C'est toujours en cours.
Si on part des objets, on part. C'est un peu long. On fait l'innovation plutôt incrémentale, plutôt dirigée. Et on se donne et on en déduit les moyens après. Après, dans l'exécution, on peut toujours en parler, mais en tout cas, dans la philosophie.
La moitié qui est
on ne rentrait pas dans un exercice contraint en disant on a 15 milliards, qu'est-ce qu'on fait avec 15 milliards? On dit on rentre par les objets, quelle est la vocation, sur quoi la France doit rayonner en 2030 ou en 2040 ou en 2050. Et ça, c'est plutôt philosophiquement bon et souhaitable. Après, l'exécution, c'est toujours pareil.
On est très bon pour les beaux discours. Après, dans l'exécution, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Et c'est intéressant, vous avez dit c'était très bien le France 2030. C'est marrant. C'est un plus révélateur. C'est-à-dire que globalement, on a mis des moyens, mais on se dit, bon, finalement, on l'a fait, mais bon, est-ce que ça va marcher 2030 c'est demain. Bon.
Messieurs, c'est à vous d'exécuter maintenant.
C'est la fin de la récré.
Justement, c'est la fin de la récré, l'extra time, nos arrêts de jeu dans Good Evening Business. Vous avez 30 secondes chacun pour nous donner votre coup de cœur ou coup de gueule.
Il y a une alarme qui se met en place, vous aurez prévenu. Marc, il va falloir être court.
Ah, 30 secondes.
C'est parti.
Alors, c'est pour moi. Ah d'accord, avec plaisir. Alors justement, c'est tout à fait lié. Moi, je voulais parler effectivement de la dette publique, évidemment, qui a dû augmenter. Et surtout, le gros problème, c'est que la France, on sait qu'on est numéro un du monde, ça c'est sûr, mais là, en termes de dette publique, nous sommes effectivement les numéro un en termes d'augmentation. C'est-à-dire que quand on regarde depuis 2017 ou depuis 2019, le ratio dette publique sur PIB, c'est en France que ça a le plus augmenté. Même la dette tout court, c'est 37% de hausse. Moyenne de la zone euro, 20% de hausse. Mais juste un chiffre, le poids dette publique par rapport au PIB en France a augmenté donc de 13 points depuis 2019.
Ah ouais.
Alors qu'en moyenne de la zone euro, seulement 3 points d'augmentation. La Grèce, qui partait de haut, certes, moins 28
enfin,
points de baisse.
Enfin, on reste quand même derrière la Grèce et l'Italie.
Oui, mais on est troisième.
Prochain ouais. président de la Cour des comptes.
Franck de Dieu.
Bon, ne riez pas. Franck de Dieu.
Alors, moi, c'est pas un coup de gueule, pour une fois, c'est un coup de cœur. Ah, parce que je trouve que bah, je défends cette loi sur l'ultra fast fashion, qui consiste à appliquer un malus et à faire en sorte de définir un plafond pour que les prix augmentent. Je trouve que, quelque part, on retrouve des vertus à la régulation sur un marché où c'est la loi de la jungle et le low-cost permanent au détriment des salariés et même des consommateurs.
Ouais, la régulation a du bon.
A priori, ça va être voté. Ouais. Tout monde, c'est transpartisan.
Jean-Baptiste Djebbari,
pour finir.
Je réfléchis à vos hôtes, mais je pense que j'ai un coup de cœur pour au regard de la discussion précédente, pour le secteur aéronautique français et européen. Pour sa capacité, à, malgré les critiques, à continuer à être très dominant à l'échelle mondiale, à être une industrie d'excellence, à susciter toujours l'envie des jeunes de rejoindre le secteur et à engager la suite. Notamment dans sa capacité à se décarboner, dans l'hypothèse, en tout cas dans la volonté de rester là aussi un acteur majeur et un acteur de millions au niveau mondial. Je pense que c'est un excellent exemple à suivre. On n'a pas su le faire avec le nucléaire. Si l'aéronautique peut rester dans le cœur des Français.
Ah, on essaie de le refaire avec le nucléaire.
On termine sur un cocorico.
Ouais. Magnifique, magnifique.
Merci, merci à tous les trois. Marc Toitier, économiste, président du cabinet ACDFI, Jean-Baptiste Djebbari, entrepreneur, investisseur, ancien ministre. Franck De Dieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Et merci à
vous,
Audrey.
Mais merci à vous, Tom Sass. Hein, c'est votre nom sur les réseaux sociaux.
Oui, absolument. Les Français ne parlent que de ça.
Mais voilà, et ben voilà, Tom Sass, c'est dit.
Et pourtant, c'est pas faute qu'Audrey le dise ce soir. Vous nous écoutez
pas, le soir même.
Donc, ne paniquez pas, l'émission est terminée, mais le débat est à retrouver. Ça s'affiche sur vos écrans avec le QR code. Sinon, c'est bfmbusiness.fr. Et puis, la bonne nouvelle, c'est qu'on se retrouve demain soir.
Non. .com, on est une multinationale.
.com, absolument.
.com, le QR code, les podcasts, les replays, vous pouvez nous retrouver si vous nous avez raté en direct. Dans un instant, Tech & Co. On continue à parler, bien sûr, de ce qui se passe aux États-Unis, cette interdiction qui pend au nez de TikTok. Ça ne va pas faire plaisir à son président, vous nous rappelez son nom, Audrey ? Chu Zichu ?
Oui, on avait un pari, vous l'avez dit en premier, bravo.
Ah bah oui, bah évidemment, il a 6 mois là, pour se mettre en conformité avec les autorités américaines, sinon TikTok aux États-Unis, ça semble mal engagé. Allez, à
bonne
tout de suite dans Tech & Co, bonne soirée.
Good evening business, actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.